connaître la parole, souligner les versets. Je vous encourage, n'amenez pas vos téléphones au culte pour lire les versets. Emmenez vos Bibles et emmenez un cahier pour prendre des notes. Parce que Dieu peut te parler. Celui qui prêche peut dire une chose et Dieu te parle d'une autre manière et tu l'écris. Tu l'écris et tu laisses travailler ça dans ton cœur. J'étais donc avec un pasteur récemment, il m'a dit, Marc, j'ai décidé, je voyais que tout le monde était tellement dans les téléphones pendant mes messages, j'ai décidé un dimanche matin de me faufiler un petit peu dans les rangs et je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui étaient en train de consulter des emails, de Facebook, de ceci, de cela. C'était pas la parole de Dieu qu'ils étaient en train de lire. Donc, la parole de Dieu, le livre qui est au chevet, le livre qui est la révélation divine du cœur de Dieu envers nous. On parle de ce couple qui avait beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Et donc le pasteur est venu nous rendre visite. Et au bout de 2 heures, après avoir parlé, entendu, etc., il a dit, bon, on va lire un passage de la parole, donc est-ce que vous pourriez m'emmener votre Bible, celui qu'on vous a donné le jour du mariage? Alors, donc, le papa dit à nos enfants, chérie, va chercher le livre, tu sais, qui est à côté de notre lit. Le grand livre qui est là. Celui qu'on lit tout le temps. Celui qu'on ouvre souvent. Il est revenu avec le catalogue de la Redoute. C'était pas la Bible. L'enfant avait bien retenu ce qui était prioritaire, quelque part. Mais qu'est-ce qu'un disciple ? Luc chapitre 9, verset 23 nous dit que le disciple renonce à lui-même. Renonce à lui-même. Le disciple prend sa croix et le disciple le suit. Alors le frère Don Luz, qui a 88 ans bientôt, le 2 octobre, il nous a bien prêché un dimanche matin. Qu'est-ce que c'était de prendre sa croix ? Ce n'était pas les petits problèmes, les petites épreuves qu'on vit. Seigneur, c'est ma croix. C'est ma croix. Prendre sa croix, c'est s'identifier avec la croix de Jésus. Et que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, nous le mettons face à la croix. Et nous rendons compte de comment la croix vient pour faire pâlir toutes nos difficultés, tous nos problèmes. Parce que la croix est attachée à nos propres, est attachée une honte, est attachée une vérité qui nous dit que tous les jours, nous sommes crucifiés avec Christ. Nous sommes crucifiés avec Christ. Et la vie que nous menons aujourd'hui, c'est la vie, la foi du Fils de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'un disciple ? Celui qui a compris, une fois qu'il a donné son cœur à Jésus, une fois qu'il a compris la repentance. Mais c'est qui lui a expliqué la repentance ? Et un autre disciple. Un frère aîné, une sœur aînée lui a expliqué la repentance, lui a expliqué comment avoir la victoire dans sa vie, lui a expliqué comment aimer la parole, lui a expliqué pourquoi c'est important d'assister dans un lieu où l'Église se rassemble. Les 4 murs, ce n'est pas l'Église. L'Église, c'est nous tous. C'est nous tous, ces pierres vivantes qui existons, qui sont importants aux yeux de Dieu, qui sont importants dans son plan, dans ses projets. Et quand on se rassemble, c'est important pour s'exhorter réciproquement, d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour du Seigneur, alors nous n'abandonnons pas le fait de nous rassembler. Mais nous nous rassemblons et nous nous exhortons réciproquement. Nous nous parlons les uns les autres. C'est tellement important qu'on ait des moments de partage. Les groupes de maison que nous sommes en train de mettre en place, et il y a de nouveaux groupes qui vont s'ouvrir aussi. Et si vous voulez ouvrir un groupe chez vous, venez. Venez vous manifester, le dire. Parce que dans les groupes de maison, il y a un temps de partage. Le groupe de maison dans l'avant ne sera pas de l'enseignement comme on a fait dans le passé, mais ça sera vraiment un lieu de partage, un lieu de prière, un lieu dans lequel on peut être à l'écoute les uns des autres et à l'écoute de ce que Dieu est en train de faire dans la vie l'un de l'autre. C'est tellement important qu'il y ait une progression. Donc nous sommes disciples de Jésus. Tu es venu à Christ, tu as vécu la conversion. Et ensuite, il y a un suivi, il y a un accompagnement. Vous savez qu'il y a les cours de base. Les cours de base nous aident à comprendre les bases de la foi. Hébreux chapitre 6 nous dit que nous n'allons pas revenir sur les premiers rudiments, qui sont justement la doctrine de baptême, donc la purification des anciens péchés, etc. C'est sûr que les bases sont importantes, mais une fois qu'on a les cours de base, on progresse et on avance. Mais avant de prendre même les cours de base, il faut qu'il y ait un accompagnement. Il faut qu'il y ait un accompagnement. Il faut que quelqu'un marche avec le nouveau converti, la nouvelle convertie. Voilà. Donc pour faire un exemple, je vais donc demander à Hubert de venir. Voilà. Hubert. Et voilà donc, Denis, tu te tiens ici à côté d'Hubert. Donc, on va faire une mise en situation. Un dimanche matin, nous avons prêché. Et à la fin, nous avons fait un appel. Hein. Et Hubert, toi tu es levé là-bas, tu avais compris que tu avais besoin d'un sauveur, tu avais compris que le seul sauveur c'est Jésus, que personne d'autre aimait moins pour toi sur la croix. Tu as compris que tu avais besoin de la paix de Dieu dans ton cœur, du pardon de tes péchés, d'accord? Donc tu t'es avancé, comme c'est notre habitude, si on fait un appel, on prie avec la personne. Hein? Je vais prier avec toi. Et je vais te demander de répéter avec moi ce que je vais dire, d'accord? Parce que ça, c'est concrétiser. Il y a des personnes qui disent, mais bon, moi je suis le Seigneur depuis mon enfance, etc. Mais à quel moment tu as compris que toi tu avais besoin d'être sauvé? À quel moment tu as compris que tu étais perdu? Jésus est venu sauver ceux qui étaient perdus. Si on ne s'est jamais vu perdu, on ne va jamais avoir la sensation d'avoir été retrouvé. Si on ne s'est jamais vu dans les ténèbres, on n'aura jamais la sensation d'être dans la lumière. Et pourtant, quand on vient à Christ, on passe de la mort à la vie, on passe des ténèbres à son admirable lumière. Donc on fait un appel, et donc il y a des personnes ici présentes, vous vous êtes avancés à un moment donné. Dans les années qui sont passées, à un moment donné, vous avez prié, de la même manière comme on va prier. Et immédiatement, quelque chose s'est passé dans votre cœur. Pourquoi? Parce que la Bible dit que si nous recevons Christ dans notre cœur, nous croyons en lui, nous devenons enfants de Dieu. Mais ça, c'est que le premier pas. On serait, nous, insensibles si une fois qu'on aurait prié, on lui dirait, bon, on se voit la semaine prochaine. Hein? Alors lui, nouveau-né dans la foi, il s'en va, il part. Il n'a pas de Bible, il n'a pas de Nouveau Testament, il n'a rien. Personne s'est approché de lui. Et le dimanche après, il va se dire, bon, je ne sais pas si j'irai, est-ce que je ne vais pas, non, je ne pense pas que je vais y aller. Et là, Roselaine va dire à Élise, tu sais, le garçon là qui est venu dimanche, mais il n'était pas sincère. Ah oui, c'est avancé, il a fait semblant de recevoir Christ dans son cœur. Mais tu vois, il n'est pas revenu, hein? Il n'est pas sincère. Mais qui s'est intéressé à lui? Denis. Son grand frère, qui immédiatement, quand on a fait l'appel et que lui s'approche, immédiatement, il sent dans son cœur, moi je veux me mettre là à ses côtés, parce que je ne vais pas le lâcher, je vais l'accompagner, je veux qu'un jour il puisse dire, je suis disciple de Jésus-Christ. Alors prie avec moi, ferme tes yeux, et tu dis, Dieu, je viens devant toi, ce n'est pas parce que je te mérite, mais j'ai besoin de toi. Je suis pécheur. Je veux connaître ton amour. Je veux connaître ton pardon. Je reconnais que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. Et je reçois ton salut. Pardonne mes péchés. Change mon cœur. Donne-moi une vie nouvelle. Merci. Merci pour ta paix. Merci pour ton amour. et de savoir que je suis pardonné. Au nom de Jésus. Amen. Tu es mon frère. Bienvenue à la famille de Dieu. Et là, tu es un frère. Alors tu disais, mais qu'est-ce qu'il est, c'est un ombre ou quoi, à côté de mes côtés? Lui, voilà, vous allez parler tout à l'heure. Parce qu'avant que tu parles ici, il va te prendre à côté, de la part. Il va t'expliquer ce qu'on vient de faire. Il va t'expliquer ce que ça veut dire. Et il va prendre tes coordonnées. J'espère que tu lui donneras. Hein? Et il va te donner ses coordonnées. Et dans la semaine, peut-être dans 2 jours, il va te contacter et vous allez vous rencontrer. Pour voir exactement comment tu te sens depuis que tu as fait cette prière. Hein? Donc, pourquoi? Parce que notre désir, c'est que tu ne sois pas seulement un bébé spirituel, mais c'est que tu arrives à être un disciple de Jésus-Christ. Hein? Donc, tu vas le voir, hein? Tu vas l'entendre. Il va t'appeler, il va t'écrire, il va te dire qu'il prie pour toi. Mais tu peux avoir confiance. Et en plus de ça, tu vois tout ce monde-là. Quand ils vont venir chez eux, ils ont entendu dire que tu t'appelles Hubert. Ils vont mettre ton prénom dans leur Bible. Ils vont commencer à prier pour toi tous les jours. Imagine-toi ce que ça va donner quand toute la famille de Dieu se met à prier pour toi. Et un jour, toi tu feras la même chose. Amen. Merci. Alors, pour être disciple, il faut le moment de la conversion. D'accord? Il peut y avoir des personnes ici ce matin, tu n'es pas converti, on n'est pas converti. Vous n'avez pas encore compris ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Parce que jusqu'à aujourd'hui, vous étiez dans l'ignorance spirituelle. Mais notre prière, notre désir, c'est que chacun devienne un disciple de Jésus. Alors, selon 2 Corinthiens chapitre 3, 18, et les versets qui suivent, un disciple, c'est quelqu'un qui se laisse transformer par l'Esprit de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4. Se laisse transformer, verset 18, nous dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Il y a une transformation qui est opérée par le Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui va s'opérer en toi par le Saint-Esprit, et tu vas être transformé en la même image de gloire en gloire, la même image de Christ. Quand tu regardes dans le miroir de la parole, tu vas commencer à voir qu'il y a des ressemblances. Tu vas commencer à voir que tu es en train de t'adapter à ce que le miroir te révèle. La transformation. Vous pouvez lire Ephésiens chapitre 4. Là, il y a la vraie transformation. Celui qui mentait ne ment plus. Celui qui se mettait en colère ne pêche pas dans la colère. Celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt il travaille pour donner à celui qui est dans le besoin. Il n'y a plus de paroles malhonnêtes, des paroles, des calomnies, des rumeurs qui sont dans notre bouche. Sinon que chaque fois qu'on ouvre la bouche, on veille à ce que cela communique une parole édifiante. Et que chaque fois, s'il y a lieu, si tu dois ouvrir la bouche, maintenant que tu es transformé, que cela communique une grâce à ceux qui t'entendent. Donc il y a donc des transformations opérées par le Saint-Esprit. Il y a les œuvres de la chair, que vous lisez en Galates chapitre 5, versets 19, 20, 21 et au 22, il y a le fruit de l'Esprit, il y a le contraste, il y a la différence, il y a une transformation. Alors, c'est qui voit cette transformation? Premièrement, c'est votre famille proche. Ensuite, peut-être c'est les collègues du travail. Ensuite, c'est le professeur à l'école. Ensuite, c'est aussi tes frères et sœurs en Christ qui vont te connaître et tu vas leur raconter ce que tu étais avant et comment Dieu t'a transformé. Et tu vas pouvoir témoigner de cette transformation de vie. Mais il y a une transformation qui s'accomplit. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire, en la même image, comme par le Seigneur l'Esprit. Ensuite, le disciple, il reconnaît, et pardon, il découvre qu'il a un ministère. Oh, un ministère, wow! Quel est ce ministère dans lequel on ne perd pas courage? 2 Corinthiens 4, verset 2. Verset 1. Regardez avec moi en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Est-ce que tu peux dire que tu es une nouvelle créature aujourd'hui? Est-ce que tu peux dire que vraiment les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles? Si quelqu'un est en Christ, une des choses qu'il faut apprendre à un nouveau-né dans la foi, c'est que du moment qu'il accepte Jésus dans son cœur et qu'il accepte Christ dans sa vie, et qu'il accepte aussi la seigneurie de Jésus dans sa vie, parce que ça c'est quelque chose qu'il faut présenter assez rapidement, parce que la Bible dit qu'il faut proclamer qu'il est sauveur et seigneur de notre vie. Une première chose, c'est que ils vont se rendre compte que Dieu, maintenant, les voit avec un potentiel. Un potentiel qu'un jour, ils vont devenir ambassadeurs de Christ. Qu'est-ce qu'un ambassadeur ? Un ambassadeur est quelqu'un qui remplit une mission. Pour remplir une mission, il faut qu'il soit proche du président, qu'il envoie dans un autre pays. Pourquoi ? Pour, avec la confiance, l'autorité du pays qu'il envoie, il va accomplir sa mission. Alors ici, il nous dit que tout cela vient de Dieu, verset 18, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. On a tous un ministère de la réconciliation, tous. On est tous appelés à réconcilier le monde avec lui-même. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. On a tous un ministère. On a tous reçu ce trésor que Dieu a mis en nous. Et on a tous reçu aussi la charge de réconcilier tout le monde qu'on peut voir avec Dieu. Nous avons un ministère. Et nous ne perdons pas courage. Le verset 3 nous dit que le disciple ne permettra pas, du chapitre 4, 2 Corinthiens 4, 3, ne permettra pas que l'évangile reste voilé. Car l'évangile reste voilé pour ceux qui périssent. Si je suis disciple de Jésus, je vais tout faire pour que dans mon entourage, toutes les personnes soient éclairées par la parole de Dieu, par la lumière de Christ, mais que l'évangile ne reste pas voilé dans mon entourage. Ça, c'est vraiment important. Pourquoi ? Parce qu'on témoigne de ce que Jésus a fait dans notre vie. Et bien sûr, si on est venu à Christ, c'est parce que la parole de Dieu nous a touchés. Nous avons eu la foi par rapport à ce qu'on a entendu. Et cette foi a fait qu'on invoque le nom du Seigneur, qu'on soit sauvé. Et si on a invoqué le nom du Seigneur et qu'on est sauvé, c'est parce qu'il y a eu des personnes qui nous ont fait entendre la bonne parole, entendre le nom de Jésus. Et s'il y a des personnes qui nous ont fait entendre, selon Romains chapitre 10, c'est des personnes qui ont été envoyées de Dieu pour prêcher la bonne nouvelle. Oui, mais moi, je ne suis pas prédicateur. J'aurais un petit peu de la timidité de me présenter devant un groupe de personnes. J'ai entendu un fait, il y a 2-3 ans, que toute personne sur la face de la terre, le plus timide qu'il soit, aurait la possibilité d'avoir une influence sur 10 000 personnes tout au long de sa vie. Toute personne. Imagine-toi, tu dis une parole de vie qui va répercuter, qui va toucher d'autres. Et ainsi de suite, il y a une multiplication. Il y a une multiplication qui se fait. Il y a des personnes qui sont présentes ce matin parce que quelqu'un qui est présent ce matin t'a parlé. Alléluia. Quelqu'un qui est présent a prié pour toi, a peut-être versé des larmes, à plaider auprès de toi en disant « Mais viens, découvre la foi, découvre la vie que j'ai découvert en Christ. » Alors, le disciple, il ne permettra pas que l'évangile soit voilé. Il ne permettra pas que l'évangile reste caché. Car les incrédules, dont le Dieu de ce siècle aveugle l'intelligence, il ne veut pas, Satan ne veut pas que les gens voient briller la splendeur de Christ, de peur qu'ils ne se convertissent. Si nous sommes convertis à Christ, convertis des idoles à Christ, convertis de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, nous sommes convertis véritablement. Nous devenons une menace pour Satan. Hein? Une menace pour Satan. Et c'est pour ça que la Bible dit, l'Esprit de Dieu viendra sur nous et on sera des témoins efficaces. On sera. Je ne dis pas forcément que vous allez pouvoir témoigner, savoir quoi dire. On sera des témoins. Déjà, notre témoignage va parler plus que nos paroles et les personnes seront attirées et touchées par ce qu'ils voient en nous parce que la parole de Dieu s'est révélée à nous. La lumière de Christ a brillé dans notre cœur et nous nous sommes convertis. Ensuite, on avait chanté un chant tout à l'heure par rapport au fait de servir Dieu. Un disciple, il a un cœur de serviteur. Un cœur de serviteur, pas seulement dans des services où on est vu, où on est donc voilà, à la vue de tout le monde, mais tout simplement un cœur de serviteur. Verset 5 nous dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. J'ai entendu parler d'un frère en Asie. Et il y avait quelqu'un qui était venu le voir dans la semaine pour lui dire, mais comment est-ce que moi je peux servir? Et ils étaient en train de parler avec le pasteur, tout d'un coup il lui a dit, ah, mais c'est vrai, notre bâtiment de 20 étages, l'ascenseur est en panne. Alors, je sais qu'il y a des petites vieilles dames qui vont faire leurs courses qui habitent au 19e étage. Peut-être si je me tiens au rez-de-chaussée quand ils arrivent et que je porte leurs courses, ça serait une manière de servir, de rendre service. Et le témoignage a été que cet homme, il a gagné des familles entières. Voilà, l'amour de Christ, tout simplement. C'était une situation, je crois que l'ascenseur était en panne pendant un mois, deux mois. Alors lui, il a profité de ce moment pour dire, je veux rendre service. Mais vous ne me connaissez pas, mais oui, j'ai mes enfants, mais ils ne viennent pas m'aider non plus, etc. Mais tout d'un coup, ils ont été touchés. Le cœur des serviteurs. Jésus n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir. Il est notre exemple, il est notre modèle. Nous avons un cœur de serviteur en tant que disciples de Jésus-Christ. Le verset 6, car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance et la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Dans quel but ? Afin que personne ne se glorifie, afin que toute puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Ne pouvons-nous rien mériter? Ne pouvons exprimer aucune prétention? Nous portons cette raison dans des vases de terre. Vous savez, la Bible dit dans le psaume 103 que nous sommes faits de la poussière. Mais il y a des personnes qui croient que la qualité des poussières avec laquelle ils ont été bâtis est différente aux autres, mais c'est de la poussière. On n'est que de la poussière devant Dieu. Et parce qu'on est de la poussière, il nous appelle ensuite à devenir un temple du Saint-Esprit. Mais on est de la poussière, des vases de terre, afin que la puissance de Dieu, la puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Alors, le disciple sera un vase d'honneur, mais brisé. Brisé. Pourquoi le brisement? Parce que je pensais que si je venais à toi, je pensais que si je te recevais dans mon cœur, j'allais me sentir bien. Et j'allais dans un lieu de culte pour me sentir bien. Et si je ne me sentais pas bien, alors je suis poussé, je vais aller ailleurs parce que je ne me sens pas bien ici. On n'est pas là pour se sentir bien, on est là pour se laisser interpeller et toucher par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, et pour être façonné afin d'être considéré devant Dieu comme des vases d'honneur. Mais le vase d'honneur sera un vase brisé. Un vase brisé. Pourquoi le brisement? On pense à Gédéon. Gédéon, il devait chercher des hommes pour gagner la bataille. Vous vous rappelez? Et alors, il y avait 10 000 hommes. Et Dieu a fait, ah non, il y a trop de monde. Il faut faire le tri. Donc vous lisez dans le livre de Juges, vous verrez comment le tri a été fait. Il a fini par avoir 300 hommes. Mais 300 hommes attentifs, obéissants, 300 hommes qui étaient à son service, qui étaient un avec lui. Vous vous rappelez, à un moment donné, il leur dit, vous allez prendre donc un chauffard, vous allez prendre donc un vase, à l'intérieur du vase, vous allez mettre une espèce de braise ou de bougie, à sa façon, à l'époque, et à un moment donné, vous allez prendre ce vase, vous allez le casser, vous allez prendre la lumière de l'intérieur et vous allez élever la lumière et vous allez prendre le chauffard et vous allez proclamer la victoire pour Dieu et pour Gédéon. C'est tout ce que vous allez faire. Cela parle des vases brisés par lesquels la lumière de Christ peut resplendir. Une des visions de notre Église, c'est une lumière au milieu d'une génération et d'une société qui se perd sans Christ. 38 de Vinaigrier, comme tant d'autres adresses à Paris, nous sommes appelés à être des lumières. Et quand on prend cette lumière, on brise le vase, la lumière resplendit au travers le vase brisé et nous proclamons la parole de Dieu. C'est là où le Saint-Esprit ajoutera à l'Église ce qui doit être sauvé. Parce que les disciples, déjà, ils sont en train de pratiquer la communion fraternelle, la fraction des pains, la prière, suivre l'enseignement des apôtres et vivre dans la crainte de Dieu. Un disciple est appelé à être un vase d'honneur, mais brisé. Nous sommes pressés de toute manière, verset 8, mais non réduits à l'extrémité. Nos frères et sœurs dans l'église persécutée, ils passent par des moments de brisement. Ils ne se vantent pas non plus d'être des vases brisés, mais c'est la réalité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné, abattu, mais non perdu, pourtant toujours avec nous dans notre corps, l'amour de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Des vases d'honneur. Mais les épreuves, considérez les épreuves par lesquelles vous traversez comme un sujet de joie. Pourquoi? Parce que c'est là où Dieu va travailler votre patience, et c'est là aussi où la lumière de Christ pourra briller d'une manière plus efficace, plus pénétrante, au travers des vases qui ont appris à être humbles. Rappelez-vous que Jésus nous dit, recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur. Philippiens chapitre 2, verset 14. Nous avons donc l'exemple de Jésus, à partir du verset 5, n'ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu, mais c'était plus lui-même, en prenant une forme de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. Il s'est humilié lui-même, selon l'obéissance, jusqu'à la mort de la croix. Verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, disait l'apôtre Paul. Parce qu'apparemment, quand il était absent, il y avait ceux qui devenaient un petit peu négligents, il y avait ceux qui devenaient, qui se laissaient aller. Il disait, mais non, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. C'est dans son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Nous sommes des flambeaux dans le monde. Mais l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, elle est visée. Elle est visée. Aux États-Unis, en 3 ans, il y a 30 millions de personnes qui ont abandonné les églises. L'apostasie arrive. À cause de l'iniquité et la manière comme l'iniquité s'accroît, l'amour de plusieurs se refroidira. 30 millions de personnes ont quitté les églises. J'étais avec un couple qui était dans une église de 5000 personnes qui avait des campus un peu partout dans la ville de Seattle. Ils m'ont dit, Marc, il y a quelques mois, le pasteur qui parlait à 20 000 personnes parce qu'il parlait dans la grande salle à 5 000, mais après par satellite, etc., il parlait à 20 000 personnes. Il a dit ceci, « Soyez patients les uns avec les autres. Si ton mari est infidèle un soir, mais considère qu'il a une mauvaise journée, pardonne-le, c'est pas grave. » Imaginez. Et la moitié de l'église s'est levée en plein culte et ils sont partis. Et tous les campus qu'ils avaient, tous étaient vidés par cette phrase. Par cette phrase. Et c'était un homme qui, par la suite, ça a été connu, il entretenait des liaisons extramaritales. Mais il avait une telle éloquence, il avait une telle manière de parler, etc., qu'il avait séduit, qu'il avait arrivé donc à séduire les personnes par rapport à ses enseignements et tout. Et tout d'un coup, il s'est démasqué. Et dans ce couple-là, ils m'ont dit, on a commencé à chercher une autre église. Et on est parti. On est allé le confronter, on lui a parlé et tout. Et il nous a dit, mais Dieu est un Dieu de grâce. C'est un Dieu d'amour. Il sait que tu vas pécher, alors. Vas-y, régale-toi, il le sait que tu vas pécher. C'est pas grave. Il va te pardonner. Tu peux pas perdre ton salut. Ça, c'est un autre sujet. Mais nous sommes appelés à être des flambeaux dans... Et je viens d'entendre parler, je vous confirmerai ça par la suite, mais qu'il y a des églises dans le nord de la France qui viennent de quitter une grande fédération parce qu'ils ont décidé, entre pasteurs, d'accepter le mariage homosexuel dans les églises. En France. Donc, nous sommes des flambeaux au milieu d'une génération qui se perd. Nous avons qu'à être dans le métro, être entouré par des centaines de milliers de personnes, et vous voyez la détresse, vous voyez la tristesse, vous voyez les visages défaits. Vous dites, mais qu'est-ce qui pourrait apporter une différence? Mais l'Église de Jésus-Christ, notre présence peut apporter la différence. Ce sont des flambeaux dans le monde, mais il faut rester attaché à la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle n'est pas liée, elle ne peut pas être altérée, et nous sommes sous la tutelle de cette parole qui est comme une épée à double tranchant qui pénètre jusqu'à discerner les pensées, les intentions du cœur. Le disciple, il est à l'écoute. Il est à l'écoute de ce que Dieu veut lui dire chaque jour. 1 Jean chapitre 1, verset 1 à verset 3, nous dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que j'entends de la part de Dieu en tant que disciple. L'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir celui qui a battu. Il avait chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme il se doit à des vrais disciples. Un disciple est à l'écoute de Dieu. 1 Jean 1, verset 1 à 3 nous dit que chaque jour nous entendons, chaque jour nous voyons, chaque jour nous touchons, chaque jour nous sommes face à cet amour du Père qui continue à se manifester envers nous, malgré nos faiblesses. Mais le péché pratiqué dans notre vie d'une manière délibérée, Jésus est venu pour détruire ce péché. Jésus est venu pour détruire les œuvres de Satan. Jésus est venu pour nous libérer. Et comme on disait tout à l'heure, c'est dans le psaume qui dit « Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés car notre secours est dans le nom de l'Éternel. » Nous n'avons pas abrité un cœur de péché. C'est terminé. Votre cœur a été touché, transformé par la puissance de Dieu. Et c'est pour ça que nous pouvons donner de l'espoir à ceux qui nous entourent. Qu'est-ce qu'un disciple aussi? C'est quelqu'un qui va multiplier sa vie, multiplier ses disciplines, multiplier ses habitudes, multiplier ce qu'il est devant Dieu. Et quand on lit un passage comme 1 Jean chapitre 1 verset 1 à 3, si ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu doit donner envie aux autres d'être en communion avec Dieu comme nous sommes en communion avec lui, moi-même, je me pose la question, est-ce que mon niveau de communion vaut bien la peine d'être reproduit chez les autres? Car si moi, je vais me donner et je vais offrir ce que je suis pour que d'autres aussi soient en communion avec Dieu, ils vont regarder quelles sont mes pratiques, ils vont regarder quel est mon niveau de communion avec Dieu. Et peut-être si tu dis des phrases et si tu dis des petits mots dans tes prières, mais la personne qui est en train de te suivre, parce que tu fais un suivi avec la personne, ils vont prier exactement comme toi. Ils vont louer le Seigneur exactement comme toi. Et c'est pour ça que le dimanche matin, quand il y a un chant qui dit « Nous élevons les mains », et toi tu as ton Timothée à tes côtés, et ce matin-là, tu n'as pas envie d'élever les mains. Alors lui, tu vois, mais il dit qu'on lève les mains. Ah non, mais je n'ai pas envie. Ah mais non, non, non. Je n'ai pas compris pourquoi on lève les mains, peut-être. Je n'ai pas compris pourquoi on lève les mains pures devant Dieu. Pourquoi on lève les mains au milieu de l'assemblée. On est observé. Et ceux qui nous observent le plus, pour ceux qui sont mariés, c'est les enfants. C'est les enfants. Et ça, c'est un autre sujet qu'on abordera, mais c'est les enfants. Et donc, j'utilise souvent cet exemple, mais imaginez donc le jeune homme qui est fiancé, qui va récupérer sa dulcinée. Et il arrive devant chez elle, là où elle habite avec ses parents, et les parents lui ont donné l'autorisation qu'ils peuvent partir pour aller manger ensemble, etc. Et là, il arrive et il sait que le rendez-vous, c'était pour 18h. Mais à 18h30, elle est en train toujours de se coiffer. Et il est là avec une telle patience. Et il est en train d'écouter la musique, la louange. C'est extraordinaire. Oh, le temps ne compte pas. Hein. On va passer donc 2-3 heures pour pouvoir parler, discuter ensemble. Mais le jour du mariage arrive. Et bien sûr, après le mariage, il y a un enfant, il y a 2 enfants, 3 enfants. Et le dimanche matin, à 9h30, le frère formidable, il est en train de prendre son café à la table. Et sa femme, elle court à droite, à gauche, elle cherche les chaussettes ou la paire de chaussettes qu'il ne trouve pas, la chaussure, etc. Et lui, en train de regarder, il dit « Bon, je t'attends dans la voiture, hein. » Il va s'asseoir dans la voiture. Ce n'est pas la louange qu'il va écouter, hein, c'est l'énervement qui va commencer à s'installer dans son cœur. Et la femme, elle sort en sueur et tout, et elle est décoiffée parce qu'elle a tellement bougé, etc. Elle rentre dans la voiture et si les regards pouvaient tuer, il y aurait des morts. Ils arrivent, donc, alors ils se sont dit des choses devant les enfants, et ils arrivent au culte, et alors au culte, il faut le sourire, il faut les mains, il faut louer le Seigneur. Et les enfants qui sont les premiers disciples qu'on est en train de former regardent le parent en disant, mais ce n'est pas le même qui est dans la voiture. Hein. Et attendez, parce que dès qu'on rentre à la voiture pour revenir à la maison pour manger, à manger, alors là, ça va continuer. Hein. On connaît la chanson. Et tout d'un coup, lever les mains, et voilà, avec le grand sourire, lever les mains, etc. Et les enfants sont confus parce qu'ils se disent, mais alors, ça veut dire que dès qu'on franchit le seuil de la porte, on est transformé automatiquement, virtuellement. Mais oui, mais on est en train d'être lu et vu de tous les hommes en tant que disciple. En tant que disciple, qu'est-ce qu'un disciple? Qu'est-ce que nous sommes en tant que disciple? Parce que si nous remplissons ces critères, nous allons aussi obéir à ce qui est dit en Matthieu chapitre 28. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les enseignants selon tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. On va multiplier. On va se multiplier. On va... Donc c'est les brebis qui vont engendrer d'autres brebis. Moi, je suis content de prier avec quelqu'un quand il va se convertir. J'aime beaucoup prier avec la personne et par la suite voir la croissance et peut-être la confier à quelqu'un et dire, voilà, voilà, tu as un frère, tu as une sœur ici. Ils vont t'accompagner. Il y aura un suivi dans ta vie spirituelle. Tu vas avancer avec Dieu. Ça va être formidable. Mais moi, ma responsabilité en tant que pasteur, c'est de reproduire des pasteurs, quelque part. Enseignant, il faut reproduire des enseignants. J'aime bien prier. Et je suis une brebis devant Dieu. Il faut que j'engendre des brebis. Mais c'est à chacun de nous d'engendrer des brebis. C'est à chacun de nous de faire des petits. C'est à chacun de nous d'avoir l'intimité dans notre vie, qu'on est allé chercher dans la prière, dans l'intercession. Parce qu'intimité, il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher. Donc, imaginez tous les petits Timothées dans les classes écoles le dimanche. Quelle responsabilité. Savoir que toutes les paroles qui sont dites, toutes les prières exprimées, ça va laisser des traces dans le cœur de chaque enfant, de chaque ado, de chaque pré-ado. Mais alors, est-ce que nous avons un Timothée dans les bras? Est-ce que nous avons un bébé spirituel dans les bras? Que nous sommes allés chercher dans l'intercession, dans les pleurs, Seigneur, comme disait Rachel, donne-moi des enfants, elle disait à Jacob, ou je meurs. Seigneur, si on n'a pas cette possibilité de se reproduire spirituellement et d'emmener des personnes à toi et de voir ces personnes devenir des disciples de Jésus, à quoi ça sert d'exister? Jésus revient bientôt. Et il reviendra pour une église qui est active, une église qui est composée des ouvriers fidèles, des serviteurs fidèles, des disciples qui se multiplient, des disciples qui en font d'autres. Et c'est comme cela que l'œuvre de Dieu s'accomplit. Mais il faut que les hommes et les femmes soient fidèles et capables de l'enseigner à d'autres. Si on s'arrête à être fidèle et capable, mais sans leur donner la vision de l'enseigner à d'autres, quelque part, la chaîne de multiplication, les maillons vont se casser et la chaîne ne suivra plus. Alors Seigneur, où est-ce que je me trouve dans cette chaîne de multiplication? Qu'est-ce que tu cherches en moi? Seigneur, nous te remercions ce matin parce que nous sommes tes disciples. Si seulement on pouvait avoir chacun un nouveau-né dans les bras, figurativement parlant, on serait préoccupé pour sa croissance, on serait préoccupé pour sa progression, on serait préoccupé de voir que le bébé spirituel ne reste pas au stade de sa naissance, mais qu'il progresse et qu'il avance. Et tu fais de chacun de nous des grands frères, des grandes sœurs, quelque part des parents spirituels, sans aucune prétention, car tu es le seul Père dans les ciels. Tu es le seul Père d'amour par excellence. Mais quelque part, si nous prenons ce rôle, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à nous occuper de ce qui est dans ton cœur, au nom de Jésus. Nous voulons voir des âmes bénies à toi. Nous voulons voir faire des appels le dimanche matin, il y a des personnes qui s'approchent en disant « Je veux Christ dans ma vie, je veux Christ dans mon cœur, je veux connaître la paix de Dieu, je veux savoir que je suis pardonné, afin que je puisse offrir cette joie, cette certitude à d'autres que je connais. » Ce n'est pas une religiosité, ce n'est pas une religion que je pratique, ce n'est pas sur le fait que je vais dans un lieu le dimanche et que je m'appelle chrétien. Qui compte devant toi, ce qui compte devant toi, c'est que nous soyons des ouvriers, que nous soyons des serviteurs fidèles. Prêts, Seigneur, à nous investir, prêts à donner de nous-mêmes et aussi à rentrer dans les champs de moissons qui sont prêts. Ces champs sont prêts, Seigneur. Il ne faut pas dire que c'est dans 4 mois, c'est aujourd'hui la moisson. Et la moisson nous vient du monde entier. Quand on considère les réfugiés, quand on considère tout ce peuple qui nous entoure, quand on considère tous ces bateaux qui viennent, et encore ce bateau à côté de l'Égypte qui a coulé avec beaucoup de morts. Et, Seigneur, nous pensons à toutes ces personnes qui quittent le rivage d'une manière si désespérée. Et, Seigneur, si comme en Allemagne, ils pourraient venir dans une église et 450 personnes ont trouvé la foi en un mois. Pourquoi? Parce qu'il y avait des personnes là pour les aimer, pour les accueillir et pour leur dire que certainement c'était dans le plan de Dieu qu'ils quittent leur pays de guerre et qu'ils viennent et qu'en venant, ils se sont donnés à toi. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à ouvrir nos yeux et aide-nous à ouvrir nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Gardons les yeux fermés un instant et c'est ce que tu peux lire au piano. Tu peux parler d'un sujet comme celui-ci sans donner, vous donner, te donner l'occasion. Si ce matin, tu n'as jamais vécu un moment de paix dans ta vie, dans ton cœur, tu n'as jamais connu qu'est-ce qui est d'être pardonné. On a besoin de pardon parce que par nature, nous sommes pécheurs. Ce n'est pas les péchés qui vont marquer qu'on est plus pécheur que d'autres. On est tout simplement pécheur. On est né avec une nature de péché. On a besoin de Dieu dans notre vie. Et peut-être que tu es là, peut-être que vous êtes là ce matin et vous dites « Je n'ai pas la paix dans mon cœur. Moi, je veux me rapprocher de Dieu. Je veux connaître la foi. Je veux m'avancer sur un chemin qui mène à la vie. Je suis fatigué de courir, je suis fatigué de me cogner contre le mur. Et je me rends compte que Dieu me cherche et que Dieu m'invite à m'approcher de lui. Pendant qu'on est en train de prier, le Saint-Esprit sait exactement comment toucher les cœurs. Parce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui dirait, Marc, prie pour moi, prie pour moi. J'aimerais recevoir Jésus dans mon cœur, j'aimerais croire en lui, j'aimerais fortement dire que je veux être un enfant de Dieu. Si tu es là, si vous êtes là ce matin et que vous avez cette soif, vous avez ce désir, être à l'écoute de la voix de Dieu, mais rien n'interdit que le Seigneur te donne l'occasion d'emmener des personnes avec toi. Et prions pour que dans les dimanches à venir, lors des appels, il y aura ceux qui répondront en disant oui, j'ai besoin de Jésus. Bon, peut-être parfois par timidité, on n'ose pas lever la main, et combien de fois, après avoir fait un appel, il y a des personnes qui vient vers quelqu'un en disant, priez pour moi, je le veux, je le veux. Mais prions tous les jours que Dieu nous donne un nouveau-né au milieu de nous. Prions tous les jours que Dieu nous donne des disciples en formation. Il y a ceux qui vont se préparer pour les baptêmes, par les cours de base, etc. Il y a ceux qui ont été baptisés, qui ont été accompagnés, et qui maintenant, eux, à leur tour, ils peuvent aussi encourager ceux qui vont prendre ce chemin de préparation pour le baptême. On a tous quelque chose.